Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre Repas Voice numéro 113, en présence comme d'habitude de Nathanaël Bloch.
Salut Marianne.
On va aborder deux thèmes aujourd'hui, les 10 ans du mariage pour tous en France et sa mise en perspective à l'échelle européenne, et le projet européen de cybersolidarité. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré la chasse à Twitter, Nathanaël, assurant que l'Union européenne allait mener des audits à blanc. Son objectif, c'est que les plateformes comme Twitter, mais aussi Facebook, Amazon, appliquent la nouvelle législation de l'Union européenne pour éliminer les zones de non-droit sur Internet. D'une, ça veut dire quoi? Et de deux, est-ce que c'est vraiment réalisable?
Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'interactions ces derniers jours entre Thierry Breton et Elon Musk, mais pas que Elon Musk, tous les grands boss, notamment américains de ces réseaux sociaux. Et en fait, Thierry Breton a aussi fait le tour des popotes médiatiques niveau national, et il était chez nos confrères de France Info en début de semaine pour justement parler de ses échanges avec Elon Musk et d'une certaine façon aussi montrer que le magnat américain était prêt à coopérer avec l'Union européenne. Alors coopérer pourquoi? Parce que l'Union européenne veut mettre en place en fait un audit de ces géants de l'Internet, et elle propose d'ailleurs un audit à blanc avant que la loi entre en vigueur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant qu'il y ait des sanctions effectives et avant que la loi ne s'applique à eux, il y a une vérification qui va être faite que ces réseaux obéissent à certaines des futures dispositions et principes que va contenir cette loi. Alors, ce sont quoi ces règles et ces principes? C'est d'abord le fait que ces plateformes agissent rapidement en fait en cas de contenu illicite, mais aussi d'informer les autorités judiciaires compétentes, notamment quand c'est le cas d'une infraction pénale. Et puis après, il y a tout un tas aussi d'autres dispositions, comme celle qui interdit à ces plateformes d'exploiter les données sensibles des utilisateurs. Je pense notamment au genre, à la religion, aux opinions politiques, pour faire de la publicité ciblée. Et enfin, tout ce qui a trait à la transparence et aux obligations de transparence, notamment quand vous, ou n'importe quel auditeur d'Europa Voice, configure en fait l'installation, son réseau social. Donc il y a ces obligations de transparence. Donc voilà, en fait, c'est une main tendue qui est faite par Thierry Breton à ces plateformes, à ces géants américains, pour leur dire voilà, avant que la loi n'entre en vigueur, avant que vous ne soyez potentiellement punis, travaillons ensemble, faisons ces audits à blanc, voyons ce qui ne va pas et corrigeons-les avant qu'il y ait infraction, sanction, etc.
Une main tendue ou un coup de pression?
C'est un peu les deux, Marianne, mais rien n'obligeait la Commission européenne et le commissaire au marché intérieur à coopérer de cette manière. On peut aussi tout simplement fermer le robinet. Il y a d'autres pays qui sont moins démocratiques que la France et plus à l'Est qui le font. Mais surtout, moi je pense que c'est plutôt une coopération, parce qu'on parle là de plateformes qui regroupent plus de 45 millions d'utilisateurs sur le continent européen. Donc plus de 10%, ou à peu près 10% de la population européenne. Donc en fait, d'une certaine façon, c'est un coup de pression, mais c'est aussi une main tendue, parce que c'est difficile pour la Commission européenne de vouloir ou de potentiellement pouvoir fermer du jour au lendemain ces applications s'il y avait quelque chose qui venait à être contre ces lois-là. Donc c'est un peu comme la mondialisation, Marianne, si je puis faire la métaphore. La question n'est pas de dire si Twitter ou si ces réseaux sont bons ou sont mauvais. Ça existe. Comme la mondialisation, elle est ni bonne ni mauvaise, elle existe. C'est un état de fait. Donc c'est comment est-ce que l'Union européenne, en tant qu'entité politique, coopère avec ces plateformes qui, des fois, prennent le rôle, dans certaines circonstances, de vrais États.
Pour l'Union européenne, cette main tendue intervient dans un contexte beaucoup plus large, beaucoup plus global de volonté de s'attaquer, si je puis dire, au contenu en ligne. Et notamment, revenons à Thierry Breton, donc le commissaire européen au marché intérieur, qui a dit vouloir créer un bouclier cyber-européen dans les mois à venir. Le tout sur fond de guerre en Ukraine, vous allez nous l'expliquer. Est-ce que c'est concret, ce bouclier cyber-européen? Et est-ce que c'est de la science-fiction? On parle de quoi, là, ici, Nathanaël?
Pour faire un petit peu de droit européen ou d'institutions, parler un peu des institutions européennes, c'est un projet de directive. C'est-à-dire qu'il faut encore qu'il y ait un vote du Parlement.
Pardonnez mon inculture.
Non, c'est plus pour faire la pédagogie de l'Union européenne en mauvais français. Mais c'est-à-dire qu'il faut encore qu'il y ait un vote du Parlement, du Conseil de l'Union européenne. Donc, on est encore aux prémices de cette idée-là. Mais pour le commissaire au marché intérieur, d'ailleurs, ce n'est pas que le commissaire au marché intérieur, ça concerne aussi la commissaire en charge de la concurrence, Vestager, parce qu'il faut aussi la coopération de grandes, encore une fois, sociétés informatiques, tech, de conseil, je pense à Microsoft, notamment Thales, etc. Ce projet de cybersolidarité, c'est pour mieux coordonner les moyens de défense informatique à l'échelle du continent européen. C'est-à-dire que chaque pays, pour l'instant, à ces agences. En France, on a l'ANSSI, qui est l'agence qui traite tous ces problèmes de cybersécurité. Dans tous les pays européens, il y a des agences nationales, mais les cyberattaques, elle ne s'arrête pas aux frontières entre États. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'est pas arrêté à la frontière de l'Allemagne et de la France. Et donc l'idée, c'est comment est-ce que l'Europe peut se doter, encore une fois, de ce bouclier, de ces moyens de défense de cybersécurité contre les multiples cyberattaques. Et effectivement, ça a été fait dans le cadre d'une flambée des cyberattaques et des cybermenaces depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, il y a des statistiques de Thales qui sont intéressantes. C'est qu'on est passé d'à peu près un peu moins de 10% à quasiment la moitié des attaques de cybersécurité au niveau mondial pour le continent européen depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, depuis février 2022. Et on le voit à chaque fois qu'il y a une offensive ou une décision commune des pays européens par rapport à de l'aide financière, matérielle, logistique pour l'Ukraine, il y a des attaques cyber-ciblées de la part de hackers russes. Une des dernières attaques, ça a été le site de l'Assemblée nationale qui a été mis off pendant quelques instants, il y a quelques jours de cela.
L'Assemblée nationale française ?
L'Assemblée nationale française. Le conflit ukrainien, c'est vraiment... j'allais dire le déclencheur, ou en tout cas un des éléments déclencheurs aussi de la proactivité de l'Union européenne, du commissaire Breton et des autres commissaires, pour mettre en place une réponse coordonnée, une réponse politique au niveau européen.
Et c'est donc pour ça que l'Europe veut un mécanisme commun. Je lisais que les cyberattaques ont bondi de 140% juste l'année dernière, et donc en pleine guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'il va fonctionner ce bouclier ?
Alors, il y a pour l'instant plein, encore une fois, on est encore au début, aux prémices de cette idée de cyber-bouclier. Mais il y a plusieurs choses déjà qui ont été avancées par le commissaire Breton. C'est l'idée, par exemple, d'une réserve de personnel cyber qui vont être mobilisables rapidement. En gros, c'est quoi ? Ce sont des experts. En cas de repérage d'une potentielle attaque à venir, qui vont pouvoir être mobilisés et pouvoir, encore une fois, dealer, pas au niveau d'un État, mais au niveau de plusieurs États, pour contrer ces menaces potentielles. Aussi, quelque chose qui est important de préciser, c'est que pour l'instant, à l'heure actuelle, la plupart de ces menaces sont des menaces qui mettent hors d'état de fonctionnement certains sites Internet. Donc ça va être des pannes, si vous voulez, pour un petit peu démocratiser ça. À ce niveau-là, ça va encore. Le problème aussi, et ce qu'anticipe l'Europe, c'est quand on va passer simplement de ces attaques qui vont entraîner des pannes de fonctionnement de sites Internet à des ordres qui vont être donnés. Et donc, c'est ça aussi que l'Europe elle est en train d'anticiper avec cette constitution d'une réserve de personnel cyber et d'experts mobilisables. C'est d'être capable de non seulement agir quand ces menaces vont arriver, mais aussi de les anticiper. L'autre chose aussi qui va être mobilisée, effectivement, c'est des moyens. C'est-à-dire que comme tout projet européen, comme toute directive qui va concerner plusieurs pays européens, il va y avoir une enveloppe commune qui va être mise à disposition de ces pays européens. Il y aura une coopération aussi entre le privé et le public. Et ça, c'est aussi un des grands débats qu'il y a en ce moment à l'Europe, c'est que sur le modèle américain est un modèle où le privé a une place importante dans la résolution de ces attaques cyber. Et donc, pour les Européens, c'est aussi une question d'ingérence, non pas simplement d'entité étatique, mais aussi d'entreprise étrangères sur le sol européen. Et donc les Européens veulent aussi se doter, veulent prendre leurs champions locaux, nationaux, européens, je pense, on a parlé de Thalès il y a quelques instants, et pouvoir vraiment avoir des synergies avec les États eux-mêmes. Donc, vous voyez, on a plein comme ça de dossiers. Il y a quand même un bon espoir que ce soit mis en place pour l'année 2024. Donc dans un laps de temps assez court.
Oui, un futur très proche. Thierry Breton lui-même donnait des chiffres concernant cette solidarité européenne. Il parlait de 1 milliard d'euros investis aux deux tiers financés par l'Europe, dont 17 pays qui ont participé à ce financement. Est-ce qu'on sait déjà sur quelle base cette solidarité va s'appliquer ?
Non, on ne sait pas sur quelle base cette solidarité va s'appliquer, et ça va être un des points de blocage, un des éléments de blocage. C'est toujours le cas en Europe, ça a été le cas notamment au niveau de la gestion de la pandémie. Tout le monde est d'accord sur les grands principes, mais après quand il faut mettre la main au portefeuille, c'est là où on voit les différences. Et en gros, on va sûrement encore une fois trouver les mêmes réticences, et sans lire dans les boules de cristal, on peut très bien anticiper que les pays de l'Est de l'Europe qui ont été vraiment frappés, les pays baltes, les pays de l'Est de l'Europe, par les attaques russes, vont être les premiers supporters de cette solidarité européenne, et que des pays dits un peu plus frugaux, c'est toujours les mêmes, hein, c'est les Pays-Bas, l'Autriche, certains pays scandinaves, vont un peu freiner ce processus de solidarité au niveau européen. Ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir en fait comment les positions sur ce bouclier de cybersécurité, les positions vont s'aligner sur les positions par rapport à la guerre en Ukraine. Et on devrait voir, en toute logique, en fait, que ces positions vont être complètement alignées. C'est-à-dire que les pays qui voulaient une solidarité européenne par rapport à l'investissement européen en Ukraine vont aussi vouloir une vraie proactivité sur ces questions de cybersécurité, puisque, encore une fois, ça arrive à un moment où l'Europe est effectivement est durement touchée par les cyberattaques à cause de la guerre en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose que personne ne remet en cause. Ce n'est pas venu comme ça ex nihilo, de rien. C'est depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine qu'on observe ces attaques. Donc, est-ce que les pays qui n'étaient pas pour une intervention ou pour une solidarité européenne par rapport à la guerre en Ukraine vont aussi être ceux qui ne vont pas être pour la mise en commun de moyens humains, financiers, etc., sur ces questions de bouclier? Ça, c'est vraiment un point, je pense, qui va être hyper intéressant à suivre. Et on va voir si, d'ailleurs, les groupes politiques au niveau du Parlement, au moment où il y aura un vote, comment ces groupes politiques vont réagir.
Voilà pour notre premier sujet. Passons au deuxième thème, Nathanaël. On le disait en sommaire, l'union homosexuelle. La France célèbre les 10 ans du mariage pour tous. Depuis 2013 et l'adoption de la loi au début du quinquennat de François Hollande, 70 000 mariages ont uni des personnes de même sexe en France. Nathanaël, c'est une question un petit peu large et j'en suis désolée, hein, mais quel bilan tirer?
Alors le bilan est dans vos chiffres déjà, Marianne. Donc il y a 70 000 célébrations de mariages de personnes du même sexe. Mais peut-être au niveau politique, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup d'évolutions de la part du personnel politique depuis ces 10 ans, ce qui est quand même un temps assez court. D'abord parce que la plupart des personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir, et notamment au sein du gouvernement ou dans l'opposition, étaient aux manettes et déjà étaient aux fonctions au moment du vote et de la promulgation. On parle d'avril, hein, mais la promulgation du texte n'est qu'en mai, donc j'espère qu'on fêtera aussi dans un mois la promulgation du texte. Et ça, c'est intéressant de voir les évolutions politiques, et pas des moindres, hein. On a par exemple le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a complètement évolué sur le sujet. Rappelez-vous-en, à l'époque, il était simplement député UMP. Il disait « Si moi, je suis maire de Tourcoing, jamais je ne célébrerai un mariage de personnes du même sexe. » Il a, depuis plusieurs interviews, évolué sur la question. C'est le cas aussi d'autres membres du gouvernement d'Elisabeth Borne, Christophe Béchu, le ministre un peu transparent de la transition écologique, pareil, a évolué sur la question. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, pareil, évolution sur la question, farouche opposant, s'est dit après qu'il s'était trompé, jugement d'appréciation. Mais aussi dans les oppositions, on a des personnalités comme Valérie Pécresse, soutien de Fillon à l'époque, Manif pour tous, etc., qui a évolué sur la question, le maire de Nice, Christian Estrosi. Donc un des bilans aussi, et ça je trouve que c'est intéressant, c'est que les lois, elles accélèrent non seulement les avancées sociétales, mais elles accélèrent aussi des fois les évolutions politiques, ou en tout cas des personnages politiques de premier camp, quand bien même ils resteraient dans leur camp, comme c'est le cas de Pécresse par exemple.
Mais ce qui est très étonnant, c'est si on compare cette évolution dont vous nous parlez de l'opinion politique, si je puis dire, avec l'évolution de l'opinion publique. Au moment du mariage pour tous, donc il y a 10 ans, on était à peu près à 58% d'opinion favorable pour le mariage de personnes de même sexe. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je pensais personnellement que le chiffre serait plus élevé. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est à 59%. 1% de plus, c'est pas énorme, c'est resté très stable en 10 ans. Mais les politiques, eux, reviennent sur leurs propos 10 ans plus tard, ou en tout cas dans les 10 années qui ont suivi. Comment on explique cet écart entre opinion politique et opinion publique?
Bon, alors déjà, Marianne, il y a une part d'opportunisme que les politiques se doivent d'avoir.
Voilà.
Pour rentrer dans des gouvernements que l'opinion publique n'a pas forcément besoin d'avoir. Donc ça explique déjà. Je ne dis pas que les personnels politiques sont unanimement non sincères, mais ils doivent aussi s'adapter, parce que sinon, il y a un problème de cohérence avec leur positionnement politique. Et je verrais mal que la moitié du gouvernement Macron, des ministres d'ouverture, donc de ceux ayant appartenu à la droite, Béchu, Lecornu, Darmanin, soient restés sur ces positions d'opposition au mariage pour tous. Et puis, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est très vrai de rappeler. À l'époque, on avait deux députés de l'opposition, Franck Riester ainsi que Benoît Apparu, qui s'étaient positionnés de manière favorable au mariage pour tous. Maintenant, je ne dis pas que c'est le cas de la majorité des députés MP, mais ça veut dire que aussi, comme dans tout débat, il y a des positions qui sont caricaturales, qui polarisent au niveau politique et qui sont sûrement moins polarisées au niveau de la société. Il était clair qu'à l'époque, les militants de la droite, en moyenne, étaient quand même plus favorables, même s'ils étaient majoritairement opposés, mais il y avait quand même plus de personnes favorables au sein des militants ou des sympathisants de droite qu'il n'y avait au sein du personnel politique, mais encore une fois, pour des raisons de mécanismes d'appareil, etc. Donc ça explique aussi pourquoi les politiques, une fois que la chose est passée, et il y a même des gens qui étaient à des positions beaucoup plus opposées. Hein. Je pense notamment à Gosselin, à Hervé Mariton, qui même maintenant, 10 ans après, reviennent dessus et disent, bah voilà, ce qu'on retient aussi, c'était que ce débat s'est passé de manière, même s'il y a eu des débordements, de manière plutôt sereine à l'Assemblée nationale. On a dû avoir des positions qui soient cristallisantes. Mais finalement, ça explique aussi pourquoi maintenant ça a été de mieux en mieux accepté. Alors que pour la population, déjà, pour l'opinion publique à l'époque, bah, il était plus facile, de, même étant sympathisant de droite, de pouvoir dire bah oui, je suis pour l'union des personnes du même sexe. Donc je pense que ça explique aussi pourquoi il y a une évolution moindre de la population générale. C'est-à-dire que les gens qui étaient sur leur position continuent de camper sur leur position, les gens qui étaient déjà convaincus continuent d'être convaincus, alors que le personnel politique, lui, a évolué. Et puis je crois aussi quelque chose qui est important de mentionner, c'est que là, on a interrogé le personnel politique par rapport au mariage pour tous. Je ne suis pas sûr que si on pose la même question pour la GPA, pour la PMA, on ait le même revirement des personnels politiques, et je pense qu'on retrouvera aussi plus d'opposition. Et au niveau de la population, je pense qu'on retrouve aussi un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a toujours un score quand même élevé de 60% environ de personnes qui se disent favorables. Alors il y a des personnes qui seront toujours défavorables, mais il y a surtout des personnes qui anticipent que ce soit la simple étape, et ça a été le cas d'ailleurs, puisque ça a été porté dans un autre projet de loi, à la question des enfants, de la filiation, de la parentalité, etc. À l'époque, on parlait simplement du mariage entre personnes du même sexe. Ça a été d'ailleurs enlevé de la proposition de loi par Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre à l'époque. Et maintenant, il serait intéressant de savoir d'ailleurs c'est quoi la prochaine étape, parce qu'on est passé avec les socialistes du Pax à ces questions de mariage pour tous, et puis après avec les gouvernements qui ont suivi à ces questions de PMA, GPA. Et donc, j'allais dire, c'est aussi dans l'air du temps que le personnel politique s'adapte aussi aux velléités de l'opinion publique.
À l'époque, 2013, donc, est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que le temps était bien calculé par François Hollande et par Christiane Taubira pour passer cette loi? C'était il y a 10 ans, donc, on l'a dit en intro, 70 000 mariages au total depuis. C'est pas beaucoup, hein, 70 000. Les mariages de personnes du même sexe, c'est 3% chaque année. C'est pas beaucoup non plus. Selon l'INSEE, les personnes de même sexe ont plus tendance à se paxer qu'à se marier, alors que les couples hétérosexuels, eux, ont plus tendance à se marier qu'à se paxer. Est-ce que cette loi, à l'époque, elle est tombée au bon moment? Est-ce que c'était une stratégie politique, une erreur politique? Maintenant qu'on a une décennie de vision dessus, comment on peut analyser ça?
Alors, sur la question politique, il faut aussi se remettre pour nos auditeurs d'SBS dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que François Hollande, après 17 ans de droite au pouvoir, la gauche revient au pouvoir avec les espoirs qu'elle a portés. Je ne sais pas, j'étais pas né, je ne sais pas si c'était les mêmes espoirs que 80, mais voilà, retour de la gauche au pouvoir après les quinquennats de Jacques Chirac, le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y a vraiment une période de grâce. Il y a un petit nuage, il y a ces 100 jours de grâce pour François Hollande. Ça, c'est la première chose. Ça intervient dans un contexte où il y a un soulagement d'une certaine partie de l'opinion que la gauche soit revenue au pouvoir. Premier élément. Deuxième élément, ce projet, il ne vient pas ex nihilo à ce moment-là de la part de François Hollande. C'est l'engagement numéro 31 de son programme. C'est un des engagements phares du programme de François Hollande. C'est-à-dire que les gens qui ont voté pour François Hollande, en tout cas ceux qui ont eu le mérite de lire les professions de foi, savaient que c'était un projet, un engagement fort du candidat Hollande devenu alors président. Donc deuxième élément. Premier élément, gauche revient au pouvoir, espoir. Deuxième élément, engagement de campagne du candidat Hollande. Troisième élément, on a aussi une assemblée politique à gauche avec une majorité pour François Hollande. Et surtout, on a, et c'est là aussi où il faut savoir reconnaître les mérites de nos politiques, de quelconque qu'ils soient, on a un projet qui est porté à l'époque par une ministre qui a une verve pour le porter. Je parle de Taubira, qui est capable d'affronter les pires choses à l'Assemblée nationale, les pires choses dans la rue avec la manif pour tous, avec les insultes qu'elle a prises, qui est capable aussi, en plus de sa verve, de faire preuve de stratégie politique. C'est-à-dire qu'à l'époque, Christiane Taubira, quand elle voit que la bataille de l'opinion va être difficilement gagnée avec les manifestations monstres de la manif pour tous, avec le fait que plusieurs fronts l'attaquent, c'est-à-dire qu'il y a la manif pour tous, il y a aussi le camp de la droite, le camp politique, des attaques. Il y a les religions. Il y a André 23 qui s'en mêle à l'époque, qui invite chaque député, nouveau député élu, à prendre véritablement en considération ce que ça signifie. Donc le religieux entre dans le politique. Elle est capable à ce moment-là de dire que la bataille, elle ne se gagnera pas dans la rue, elle se gagnera à l'Assemblée. Et qu'il faut absolument que les débats soient bien menés à l'Assemblée. Pour répondre à votre question, Marianne, est-ce que c'est un bon moment? En tout cas, il y avait beaucoup de planètes qui étaient alignées pour que ce soit voté à ce moment-là. Et encore une fois, ça a été fait les premiers mois après l'élection de François Hollande. C'est-à-dire que depuis le moment où ça vient à l'Assemblée nationale jusqu'au moment où c'est promulgué, on a à peine un an. Ça a été fait dans les premiers mois. Et donc, c'est le moment opportun pour un nouveau politique, un nouveau président de le faire. Donc, je crois que difficile de... Voilà, de faire une analyse a posteriori, de savoir si c'était opportun ou pas. Mais en tout cas, il y avait beaucoup d'éléments qui montraient à l'époque que François Hollande a eu raison de se saisir de cette opportunité.
Et maintenant, si on essaie de remettre à l'échelle, faire une perspective à l'échelle européenne de ce mariage pour tous, la France, à l'époque, était le 14e pays du monde à adopter le mariage pour tous, le 9e pays européen. Il y a désormais 31 pays dans le monde qui autorisent le mariage pour tous, 14 au sein de l'Union européenne. 14 pays donc au sein de l'Union européenne qui autorisent le mariage pour tous, 21 qui autorisent l'union civile et 6 pays de l'Union européenne qui ne reconnaissent aucune forme d'union pour les couples homosexuels. On va les citer, hein, Slovaquie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Bulgarie et Pologne. Ces chiffres, ça dit quoi de la politique européenne en matière de société ou en tout cas sur ce sujet?
Bon, ça dit d'abord qu'à l'Est, un peu rien de nouveau, malheureusement. La liste des 6 pays pour qui il n'existe aucun dispositif, que ce soit une union civile ou un mariage traditionnel, ce sont des pays d'Europe de l'Est, où certainement le poids des traditions, du conservatisme, du religieux a encore une place prépondérante. Je reprends aussi ce que vous avez dit. En fait, la France était donc le 9e pays de l'Union européenne. On est en 2013 à ce moment-là. Et finalement, en 10 ans, on a eu à peine 4-5 autres pays qui ont permis ce mariage. Il y a encore du progrès à faire. Et puis, ça dit aussi, surtout, que même, encore une fois, au niveau de l'Union européenne, on a une Union européenne encore à plusieurs vitesses. Je ne parle pas simplement de l'opposition, enfin, le fait qu'il y ait 6 pays qui ne reconnaissent rien, mais c'est-à-dire qu'on a encore des pays qui ont un mariage exactement similaire pour les personnes du même sexe ou de sexe opposé. Des pays qui ne vont pas aussi loin avec une union civile et des pays qui reconnaissent rien de tout. Donc ça montre qu'au sein de l'Europe, on a encore des divisions et donc on a encore du mal à avoir des positions qui soient cohérentes, si ce n'est similaires, sur des questions aussi importantes. Parce que je crois aussi ce qui est important de rappeler, parce que ça a été un des axes de défense de Christiane Taubira à l'époque, c'était de dire que la question du mariage pour tous, c'est une question de droit. C'est une question juridique. Donc si c'est une question de droit, si c'est une question juridique, on devrait aussi pouvoir trouver à l'échelle européenne des orientations, des pistes qui font qu'on puisse adopter. Parce que à l'échelle européenne, on a à peu près 80% des lois des parlements nationaux qui sont des transcriptions, des traductions de directives européennes. Alors pourquoi on n'arrive pas aussi à avoir une transcription d'une directive, une traduction d'une directive européenne qui s'appliquerait à l'échelle des pays nationaux pour reconnaître de manière unanime, une union civile, une union tout court entre personnes du même sexe. Donc voilà, il y a encore des choses qui aussi restent à faire et restent à discuter à l'échelle européenne. Mais de toute façon, ça doit venir des parlements nationaux d'abord, parce qu'il faut convaincre les opinions nationales.
C'était Europa Voice numéro 113. Merci beaucoup, Nathanaël.
Merci, Marianne.